Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, on découvre les backstage d'Instagram, mais pas que, avec Léa Lejeune, cofondatrice de Plan Cash, le média féministe qui parle de thunes. Ensemble, on plonge dans les coulisses de la création d'une marque ultra singulière en s'attardant sur les leviers de monétisation utilisés par Plan Cash ainsi que les secrets de son succès fulgurant. Bonne écoute! Salut Léa!
Bonjour Noémie!
Bienvenue dans The Storyline!
Ravie!
Mais oui, bah de même, plaisir partagé. Merci d'avoir accepté mon invitation et cet enregistrement matinal. Il est 9h du matin et on est toutes les deux. Enfin, moi, personnellement, j'avoue, je suis en pige.
Pas très réveillée de mon côté, mais prête.
Très bien. Dans ce cas, je te propose de rentrer dans le dur directement pour se réveiller. Est-ce que tu peux nous partager ton histoire, ton parcours et ce qui t'a amené à la création de Plan Cash Media?
Alors moi, je suis journaliste économique, j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait un Sciences Po à Grenoble. Je fais ça depuis 2010 et je travaillais aussi sur les sujets féminisme, égalité homme-femme. Mmh. Donc voilà, d'un côté, je faisais des enquêtes, des reportages sur l'industrie de la tech précisément, qui était celle que je suivais le plus longtemps. Et de l'autre, je travaillais beaucoup sur comment on intègre les femmes dans l'entreprise, c'est quoi les inégalités qui persistent, quelles sont les initiatives positives dans ce sens-là. Voilà, donc ça a été important pour moi. Et j'ai travaillé au journal Libération, j'ai travaillé au magazine Challenge pendant 7 ans. Mmh. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvée face à un mur, c'est-à-dire que je perdais la notion du sens de pourquoi je faisais ce métier-là. Il faut savoir que Challenge, c'est un magazine qui s'adresse plutôt au patronat, en tout cas... Mmh. Au patron de TPE comme au patron de grandes entreprises. C'est un magazine qui est très libéral et c'est pas mes convictions du tout. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, je me suis retrouvée face à ce mur qui est « Mais c'est quoi mon job aujourd'hui ?» C'est d'aider des vieux monsieur riches à devenir encore plus riches. Caricature un peu, mais c'est l'idée, quoi. Mmh. Et en tant que... Moi, j'étais aussi très féministe en parallèle. J'avais cofondé l'association des femmes journalistes qui s'appelle « Prenons la Une » en 2014, okay. Qui jouait à la fois sur l'égalité professionnelle des journalistes, donc comment on leur offre plus de droits, comment on leur permet des parcours avec des évolutions de carrière réelles, mais aussi comment on favorise la représentation des femmes dans les médias, puisque les femmes sont sous-représentées dans les médias, et très souvent à des rôles stéréotypés, beaucoup moins à des rôles d'expertes. Mmh. Et dans la presse économique, c'est un des pires domaines, à part peut-être le sport, il n'y a que 26% de femmes représentées, très peu d'expertes et beaucoup de « je suis la maman qui va faire les courses pour la rentrée de mes enfants ».
Problématique.
Donc des visions très caricaturales. Mmh. Voilà. Et donc quand on tourne les pages de la presse économique, en général, on tombe sur beaucoup de messieurs en costume qui représentent le CAC 40, beaucoup de jeunes start-upers en Stan Smith, issus de familles plutôt aisées, qui ont fait des écoles de commerce, mais qui sont encore plutôt des gars.
Ouais.
Et les pages sur l'argent et sur l'investissement demandent un niveau d'accessibilité que moi, je trouve pas du tout évident pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il faut déjà connaître l'économie et déjà connaître l'investissement pour commencer à lire ces pages-là. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de tout ça, moi, j'ai tissé un peu mon projet dans ma tête. Je me suis dit, OK, je vais essayer de créer un mini-média, c'est comme ça que je l'ai appelé au début,
ouais.
Qui s'adresse aux jeunes femmes, notamment à toutes mes copines qui ne lisaient pas la presse économique dans laquelle je travaillais, mmh. Et qui va leur proposer des solutions et des sujets sur l'argent et sur l'investissement qui les intéressent, avec un angle féministe et un questionnement écologique, finalement, à chaque fois que je parle d'un produit ou d'une forme d'investissement, parce que ça fait aussi partie de mes engagements phares.
Génial. Excellent pitch. J'étais portée par ce que tu as raconté et je me permets de faire une petite digression. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur la perte de sens, alors j'ai plus les chiffres en tête malheureusement, mais j'ai lu un dossier il y a peut-être 6 mois, 7 mois, qui disait que justement c'était assez désastreux, que dans l'univers du journalisme, il y avait beaucoup de démissions, beaucoup de journalistes qui quittaient la profession, voire très peu de nouveaux journalistes qui avaient envie de la rejoindre, justement du fait de cette perte de sens. Est-ce que tu expliques ça par, avant de revenir à Plancache Média, hein, mais est-ce que tu expliques ça par les lignes éditoriales des magazines, la difficulté à trouver des modèles économiques viables, qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Alors, ce que tu cites, c'est l'étude de Jean-Michel Charon, qui est un spécialiste des médias, et je le connais bien, puisque justement, il m'avait interviewé au titre de Prenons la Une pour cette recherche-là.
Okay.
Effectivement, il y a une perte de sens du journalisme. Bah, finalement, le journalisme, c'est un métier qui fait rêver. On s'imagine qu'on va faire du terrain, qu'on va aller interviewer plein de gens. Et les réalités du métier ne sont pas du tout celles-là. Il y a beaucoup de journalisme de desk, c'est-à-dire de journalisme assis, où en fait, on passe des coups de fil. En début de carrière, on commence souvent par bâtonner des dépêches. Moi, j'ai eu la chance de pas trop faire ça, mais par contre, je fais beaucoup de freelance.
Oui.
Donc, c'est l'autre côté négatif, c'est que quand on démarre dans une profession par le freelancing, en fait, on n'a pas encore les réseaux, on n'a pas encore les bonnes habitudes. Et donc, en fait, financièrement, c'est plutôt galère.
Oui.
Et ce qui se passe autour du journalisme, ça se passe autour des 30 ans à peu près. Et ça joue à la fois sur la perte de sens, puisque notre job ne ressemble pas au job qu'on avait imaginé, mais aussi sur les difficultés salariales, puisque le journalisme se pratique en très grande partie à Paris, et qu'en fait, les salaires sont aujourd'hui extrêmement bas.
Oui.
Et moi, qui étais célibataire, je galérais vraiment à boucler mes fins de mois avec mon salaire de journaliste de 12 ans d'expérience, après avoir été présidente d'asso, avec un titre de reporter, après avoir publié un livre. Enfin bref, même avec tout ça, je galérais quand même avec mes fins de mois. Donc ça fait partie des critères, ouais, je crois.
J'imagine, donc c'est pas un mythe ce sujet des articles qui sont vraiment sous-payés, ou en tout cas pas payés au niveau de la valeur et du temps que tu y passes, quoi.
Donc, quand on compare au consulting, les salariés n'ont rien à voir.
Oui, ça, c'est un prisme un petit peu large de ce comparaison. On a un petit delta. Ok, je comprends. Et donc, du coup, tout ça t'a amené à te pencher sur Plancache, qui respectait tes valeurs et qui allait dans la direction que tu nous as partagée. Aujourd'hui, donc depuis ce lancement, comment est-ce que ça, le projet a évolué? Aujourd'hui, Plancache, c'est quoi? Et c'est qui, surtout?
Alors, oui, tout à fait. Donc, Plancache, au début, je l'ai lancé avec cette vision-là. C'était une newsletter, puisque la newsletter était une manière de lancer un média qui soit gratuit. Je me disais, les fans ne s'intéressent pas trop à l'investissement, donc je ne vais pas les faire payer tout de suite, elles ne seront pas d'accord.
Oui.
Donc, un média qui soit gratuit, qui permette de grossir vite et que je puisse lancer avec un minimum de moyens. Mais derrière, j'avais quand même cette idée qu'il allait falloir trouver un modèle économique derrière. Mmh. Et comme tu le disais tout à l'heure très bien, les médias ont de moins en moins de modèles économiques fiables. Les gens sont de moins en moins prêts à payer pour des abonnements sur Internet, surtout pour un deuxième ou un troisième abonnement. Mais j'avais trouvé des modèles économiques aux États-Unis d'influenceuses ou de médias qui parlaient d'argent et qui se finançaient via les formations. Et donc, c'était un peu mon idée, vu que les Françaises et les Français sont très mal formés aux notions budgétaires et aux notions d'investissement, de créer des formations avec des prix hyper accessibles et de se rémunérer là-dessus. Mais ça, je me disais, ce sera pas pour tout de suite. D'abord, je fais grossir la newsletter. Autour de 5-6 000, je sais que je peux commencer à avoir de la publicité.
Ouais.
Et puis derrière, je pars sur les formations. Et par chance, somewhere along the way, j'ai rencontré en janvier ou février 2022 Morgane Dion.
Oui.
C'était une jeune femme qui faisait de la RSE et qui travaillait dans des startups scale-up françaises. Et qui avait été start-upeuse elle aussi, et qui me disait, moi, je suis en train de lancer une plateforme de formation. Pour l'instant, j'en ai bêta-testé 2. Ça se passe plutôt bien. Je crois que toi et moi, on va dans le même sens. Et si on y allait ensemble? Et en fait, c'était un peu comme un coup de foudre professionnel, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs féministes assez proches. Pour nous, l'inclusion, c'est très important. Donc, l'idée de faire une tarification qui soit abordable à toutes.
Oui.
L'idée d'avoir une représentativité de toutes les femmes, notamment des femmes d'origine ethnique différente. Et là, on est en train d'essayer de travailler sur les femmes en situation de handicap pour donner l'impression et vraiment représenter toutes ces femmes qui ne sont pas représentées dans la presse et dans la presse économique en général. Et puis, cette vision business qui était, par contre, c'est pas un side project, on fait ça vraiment sérieusement, on veut des rentrées d'argent, on veut être à l'équilibre, et d'ici un an, on veut se payer.
Oui.
Voilà. Et donc, Plan Cash, aujourd'hui, c'est une newsletter de 15 000 personnes, un compte Instagram de 51 000 et quelques abonnés, qui a grossi très, très vite, plus vite que ce qu'on pensait.
Mmh. Oui, en effet, c'est
impressionnant. Des formations en ligne à 29,90 € ou 39 €, donc un prix qu'on a considéré comme plutôt abordable.
Ouais.
Et là, on a déjà plus de 1500 personnes qui ont payé pour une formation en moins de 8 mois, quoi, quelque chose comme ça.
Félicitations.
Et on continue à grossir et on se voit en mode start-up, on a des idées de développement, bref, plein de choses comme ça.
Trop bien. Je trouve ça vraiment, vraiment trop chouette. Donc, du coup, tu disais que vous aviez des ambitions par rapport à Plan Cash dès le début. Et je trouve ça admirable et c'est cool de se dire on sait dans quelle direction on va, on ne perd pas de vue le pragmatisme financier non plus. Aujourd'hui, le média, il est monétisé de différentes manières ou tous vos revenus rentrent sur la formation?
Alors, le média est monétisé. Déjà, on a de la publicité dans le média toutes les semaines.
Ah oui, en effet, oui.
Je vais pas dire les tarifs, mais c'est des tarifs qui valent le coup.
D'accord.
Qui sont intéressants.
Grâce à votre audience, du coup, c'est permis par les logiques de volume sur la news et et Instagram.
C'est 15 000 personnes. Donc ça, c'est pour la publicité. 15 000 personnes abonnées en 12 mois. C'est quand même pas mal.
En effet.
On est sur une audience hyper qualifiée parce qu'on est vraiment sur des femmes qui s'intéressent à la gestion de l'argent et à l'investissement, voire à leurs premiers investissements. Donc, pour les annonceurs, c'est hyper ciblé. La moyenne d'âge, elle est entre 28 et 45 ans.
D'accord.
Donc, on est sur des personnes qui ont déjà eu un premier job, des jeunes actives la plupart du temps, qui ont un petit pouvoir d'achat. Il y a aussi des personnes qui sont en difficulté financière, qui le lisent peut-être moins pour investir que pour s'acculturer aux questions économiques, puisque moi, je suis très engagée aussi sur les questions sociales, redistribution des richesses. Et ça se sent dans le ton de la newsletter encore plus que sur le compte Instagram.
D'accord.
On monétise aussi un petit peu sur le compte Instagram puisqu'on fait quelques posts sponsorisés, quelques reels sponsorisés. Voilà, donc là, c'est un à deux par mois puisqu'on ne veut pas se transformer en panneau publicitaire. Et ensuite, il y a les formations auxquelles on essaye d'amener les jeunes femmes et les moins jeunes d'ailleurs.
D'accord.
Et puis, on a aussi toute une base d'outils qu'on vend sur notre site internet. Par exemple, si tu veux calculer la rentabilité d'un bien immobilier, comment tu fais? Nous, on a inventé un tableur Excel qui te permet de remplir tous les critères et de chercher tout ça.
J'adore, ok.
Et là, en ce moment, on donne gratuitement pour le mois de février un outil qui te permet de répartir l'argent dans ton couple au prorata de qui gagne quoi.
Excellente idée pour la Saint-Valentin.
Voilà, idée Saint-Valentin. Et puis nous, on est vraiment persuadés qu'il faut que ce soit au prorata. Surtout dans les couples hétérosexuels où il y a une différence de revenus très forte entre l'homme et la femme. Donc voilà, cet outil gratuitement pendant un mois et en fait, on fait tout ce genre de petits services qui, en tout cas, nous permettent d'essayer d'attraper les femmes et de leur dire en fait, l'économie, c'est aussi pour toi.
Ok, donc trop bien. Si je résume, chacun de vos canaux de prise de parole est éditorialisé, monétisé et du coup amène une brique de valeur différente à votre audience. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une prochaine question, justement, en parlant de ces petits services et de ces petits contenus un peu cool que vous distribuez. Qu'est-ce que c'est les différents formats de contenu, que ce soit du contenu écrit, audio, vidéo, et les événements que vous allez créer avec Plan Cash sur l'ensemble justement de ces formats, de ces canaux de prise de parole que vous avez développés?
Alors, il y a ceux que j'ai déjà bien développés.
Ouais.
Sur les réseaux sociaux, par exemple, on a créé des nouvelles rubriques qui n'existaient pas ou qui étaient faites par personne. La rubrique « Ceci est une investisseuse
»,
où il y a une femme qui passe en revue son portefeuille d'investissement et en général son épargne de précaution aussi, c'est-à-dire l'argent qu'elle a mis de côté pour s'en sortir en cas de pépin. Voilà, donc là, on a réussi à faire témoigner une quinzaine ou une vingtaine de femmes sur ce sujet-là dans un pays où le tabou sur l'argent est très fort. Donc, je trouve que c'est important.
Oui, super.
On a quand même un petit challenge. Je sais qu'il faut qu'on arrive à faire témoigner des personnes qui ont des petites sources de revenus plus souvent et pas seulement des personnes qui sont des investisseuses avec des énormes réussites pour que les... Ouais, voilà, pour que les abonnés puissent vraiment se reconnaître. L'un de nos formats aussi qui marche très bien, c'est l'étude qui choque, où en fait, on vulgarise des études d'économie comportementale, de sociologie, mm-hmm. sur le rapport des femmes au travail ou à l'argent,
okay.
avec en général quelque chose qui suscite une émotion forte, voilà, qui donne envie de réagir, de s'engager, avec une, finalement une connotation féministe assez ouverte.
Mm-hmm.
Et aussi, deux fois par an, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements avec la communauté.
Okay.
Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout rentable, on est juste à l'équilibre.
Okay.
On fait participer les partenaires qui peuvent pitcher, des jeunes femmes de la communauté qui peuvent pitcher sur leur rapport à l'argent. On fait un petit speed dating, speed meeting, où les partenaires répondent rapidement aux questions des abonnés. Et puis après, on fait des événements plus ou moins rigolos. La première fois, on avait fait intervenir des One Woman Show,
okay.
des chaînes de pause,
très cool.
qui avaient parlé du rapport des femmes à l'argent. Uh-huh. Et la dernière fois, on a fait un blind test, Money Women.
Ok.
Voilà, donc c'est on top. Fait ça. Ouais. Et ça, en fait, ça nous apporte surtout le fait de pouvoir rencontrer notre communauté, de pouvoir offrir une nouvelle forme de communication à nos partenaires.
Ok, super. Et puis, ouais, j'imagine de faire un relais à tout ce qui est numérique parce qu'il y a quand même, je m'avance peut-être, mais j'imagine un besoin pour ces femmes qui sont quand même sur un objectif et un enjeu hyper fort de se retrouver, d'échanger, d'être rassurées peut-être par la proximité avec le reste de la communauté.
Oui, ça, je pense que c'est vraiment une des... D'ailleurs, tous les rapports sur l'influence le disent, hein, c'est vraiment une des évolutions des prochaines années. Comment on construit un lien entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe hors ligne.
Mmh.
Et nous, on veut vraiment pas être perçus comme des petites starlettes de l'Internet, ça nous intéresse pas. Donc, par exemple, on répond à tous les messages de la communauté, tous.
Ouais.
Et ça, je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui peuvent l'annoncer aussi fortement. Donc, on n'a pas de community manager, on est vraiment encore que toutes les deux. Voilà, et donc, on fait ces événements-là où tout le monde peut venir nous parler et il y a vraiment un truc où on essaye d'établir un rapport de confiance et aucune question n'est interdite et aucune question bête n'existe de toute façon sur plan cash.
Ouais, et puis il y a une forme de d'égalité et de posture hyper apaisée entre vous et votre communauté. Et d'ailleurs, je vais digresser un petit peu, mais ça me fait penser à ce que tu dis, cet enjeu dans les années à venir du lien entre le offline et le online. Je trouve qu'il y en a pas mal qui loupent le coche, mais sur un tout autre secteur et sur une toute autre ligne éditoriale, je regarde beaucoup ce que fait Léna Situation, l'influenceuse que tu as sûrement vu passer sur Insta, vu qu'elle est quand même assez connue. J'ai beaucoup aimé ses initiatives, justement déjà d'inviter parfois ses followers à prendre le petit-déj ou le déj avec elle et d'aller faire du shopping avec elle. Et plus récemment, d'ouvrir un pop-up store dans Paris dans lequel c'est ses potes qui sont les vendeurs et elle passe tous les jours pour jouer aux jeux de société, papoter avec les clientes et tout. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment hyper, hyper smart et assez admirable comme démarche parce que ça permet d'incarner et d'humaniser vachement une marque et une forme d'influence dont aujourd'hui on n'a plus forcément, enfin l'influence un petit peu distante, idéalisée, aspirationnelle, on n'en a plus trop envie aujourd'hui, j'ai l'impression.
Ah oui, moi je crois que mettre les gens sur un piédestal, il faut arrêter. Et puis en plus, ça construit des égos hyper forts et je ne crois pas que c'est une bonne chose finalement pour la remise en question parce que l'influence ou le journalisme, alors moi tu me mets un peu dans la catégorie influenceuse et je comprends parce que en fait l'idée de Plancast c'était faire du journalisme en reprenant les codes de l'influence. Donc moi, quand je fais la newsletter, je fais une newsletter de journalisme. C'est-à-dire que j'enquête, je vérifie mes sources, je mets des points de vue contradictoires, pas uniquement mon point de vue à moi. Je précise hyper précisément à quel moment il s'agit de publicité et de partenariat et à quel moment il s'agit d'enquête. J'écris ce que je veux dans la newsletter et les partenaires n'ont pas le droit à la relecture, hors le petit carré publicitaire. Et je continue à avoir vraiment cette pratique-là. C'est vraiment une pratique de journaliste, quoi. Et du coup, en fait, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est important dans la démarche.
Bien sûr.
Et en même temps, les journalistes aussi se sont vachement éloignés de leur audience. Ils ne savent plus vraiment qui sont leurs abonnés réels. Ils ont toujours l'impression, par exemple, que leurs abonnés sont beaucoup plus jeunes qu'ils ne sont.
Okay.
Moi, quand je m'étais lancée, je m'étais dit, ah, je vais parler aux femmes de 20 à 30 ans. Bah non, elles ont 28 à 45. C'est comme ça.
Ouais, finalement, on ne s'y attend pas. Et non, alors pour apporter une petite précision, je ne t'aurais pas mise dans la catégorie influenceuse, mais plutôt créatrice. Et justement, avec cette petite différence qui est que tu ne monétises pas ton influence, mais les contenus que tu crées, mais que de fait, il y a une forme d'influence qui s'en dégage. Et même dans l'industrie et l'univers des créateurs de contenu, il y a cette problématique que tu évoques qui est une distanciation par rapport à l'audience. Créer des contenus en se disant ça va plaire et en fait on tape un peu, c'est un peu mettre des coups d'épée dans l'eau parce qu'on ne prend pas le temps d'échanger et de rencontrer sa commu. D'ailleurs, je considère que moi, je ne le fais pas assez et j'aimerais en savoir un peu plus sur mes auditeurs et mes auditrices. Mais à culpa. Mais ça, il y a des projets dans le pipe par rapport à ça.
Ok, super.
Mais du coup, c'est l'idée que j'avais en te parlant de cette notion d'influence et de lien, que ce soit entre les influenceurs et l'audience ou les marques et leur audience ou les créateurs et leur audience. Je trouve que l'enjeu est le même, en fait.
Oui, tout à fait. Mais tout le monde a eu quelque chose à y gagner.
Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ce compte Instagram, qui est quand même assez impressionnant, 50 000 abonnés en moins d'un an, comment est-ce que tu expliques ce succès en voyant qu'il y en a quand même pas mal des nouveaux médias, des entrepreneurs qui souvent plafonnent pendant quelques années à quelques petites centaines, et c'est tout à fait louable aussi, on parle de nano-influence aujourd'hui, mais à quelques centaines de followers, toi qui n'avais pas forcément d'expérience du marketing et du growth avant ça?
Oui, alors moi, je n'ai pas du tout pensé le truc comme un produit marketing avec les codes que l'on peut étudier à l'école, par exemple, puisque moi, j'ai un diplôme de journalisme, donc ce n'est pas du tout la façon dont je réfléchis.
Ouais.
Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à réfléchir comme l'algorithme.
Mmh.
Alors déjà, j'avais 5000 abonnés, quelque chose comme ça, 7000 abonnés sur mon compte personnel. Donc, j'avais quand même un petit peu l'habitude de tester des choses, voir ce qui marchait pas.
Ouais.
Donc, il y avait déjà cette chose-là. Je savais qu'on était toutes seules sur ce créneau parce que finalement, toutes les femmes qui parlaient d'argent sur les réseaux sociaux à ce moment-là et qu'on a toutes dépassé très vite, c'était plutôt des coachs. Donc, plutôt dans une dimension où on donne un petit conseil de temps en temps et on essaye de ramener des clientes qui sont prêtes à payer une somme conséquente.
Mmh.
Nous, on était dans une démarche plutôt média. Donc, on va partager évidemment des conseils puisque c'est quelque chose que les gens recherchent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi des informations. Autre chose, c'est que j'avais ce réseau de journalistes ou d'influenceuses ou productrices de contenu féministes autour de moi,
sur
lequel j'ai pu m'appuyer en leur disant « voilà, je vais lancer ça ». Si ça vous plaît, j'aurai besoin de vous pour que vous le relayiez. Il y en a qui m'ont dit, attends, laisse-moi voir quelques jours, laisse-moi voir quelques semaines. Mais qui, effectivement, ensuite se sont mises à le relayer. Je pense, par exemple, à Victoire Taillon, je pense à Lorraine Bastide, je pense à Fiona Smith, voilà, qui sont des influenceuses ou des journalistes sur les questions féministes, qui ont vraiment repéré l'intérêt de mon sujet, qui en ont partagé, qui en ont parlé très vite. Ensuite, on a vraiment utilisé l'aspect social du réseau social. C'est-à-dire qu'on a créé des formats récurrents. On a répondu, comme je disais, à tous les messages.
Ouais.
Et ensuite, on a fait énormément de co-posts avec soit la communauté, soit des gens qui avaient des sujets proches des nôtres, etc. Et le co-post, moi, je trouve que c'est bête parce que c'est une fonction qui est très peu utilisée. Mmh. Or, ça permet de faire des échanges de communauté hyper intéressants, quoi.
Ouais.
Tu vois, par exemple, une influenceuse comme Power Ta Carrière, qui est aussi coach sur la position des femmes au travail, en fait, elle va avoir une audience qui sera très proche de la nôtre, mais qui n'aura pas forcément déjà accès à notre contenu. Et donc, on a fait des choses ensemble. Et en fait, chacune se ramène des abonnés et il y a un vrai échange qui se passe là-dessus. Donc, voilà, il y a cette question-là. Et puis, il y a aussi la question, donc, plus touchy pour moi, la question de l'émotion.
Ouais.
Ouais, parce que moi, je trouve que l'algorithme d'Instagram, il fonctionne beaucoup sur... comment je suscite de l'engagement, et je suscite de l'engagement pourquoi ? Par un truc utile, ou alors par de la curiosité, par de la surprise, par du dégoût, par un envie d'engagement, ou par une identification, une adéquation très forte avec le message qui est partagé.
Mmh.
Et donc là, on est vachement dans l'émotion, et je trouve qu'avec le nouvel algorithme qui... c'est encore plus une différence entre les posts qui sont peu likés et les posts qui booment de fou.
Ouais.
Parce que vraiment, le nouvel algo, il a vraiment fait cette distinction-là entre les deux.
Okay.
Je trouve que c'est encore plus fort, quoi. Et donc, voilà, il a fallu utiliser ce truc-là. Et ça, c'est vrai qu'en tant que journaliste, ça m'a posé pas mal de questions. Hein, puisque dans le journalisme, on essaye plutôt d'être factuel. Utiliser l'émotion, c'est plutôt perçu comme quelque chose de négatif. On est censé plutôt aller sur une forme... de neutralité ou d'objectivité qui n'existe pas vraiment, mais qu'on cherche à atteindre à fond. Donc, voilà, nous, ça a été une vraie question, et c'est toujours une vraie question, comment on suscite de l'émotion, comment on fait réagir, comment on surprend,
oui.
Comment on engage. par les études qui choquent, c'est très facile. Pour le coup, on est raccord 100%. Et sur d'autres sujets, ben, on est plus dans une position d'expérimentation.
Trop bien. Franchement, c'est hyper... Pardon, j'ai du mal à me reconnecter parce que j'étais en train de me noter plein de bons tips. Mais en tout cas, je retiens vraiment déjà l'émotion au cœur de tout ce que tu fais. Et avoir cette démarche de test and learn, d'aller sur des features au maximum qui permettent d'aller faire du cross audience. Enfin, ce mot n'a pas de sens, mais tu vois ce que je veux dire. Et de pouvoir créer de l'interactivité, quoi.
Et de l'interaction. Là, on a fait un petit sondage auprès de la communauté pour leur demander. On leur a dit, voilà, on est arrivé à 50 000, on aimerait savoir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. On s'est juste pris une petite claque. Parce qu'il y a 6 ou 7 abonnés, c'est pas beaucoup sur 50 000, c'est vrai, mais quand même, 6 ou 7 abonnés qui ont dit qu'elles n'aimaient pas trop nos reels.
Ah non.
Je sais pas si tu vois nos reels où on est toutes les deux, où on parle, où on donne des conseils l'une l'autre en s'interpellant et en se faisant des vannes un peu concon, mais en tout cas en essayant.
Ouais.
Donc voilà, il y a 6 ou 7 abonnés qui ont dit qu'elles n'aimaient pas trop nos reels et donc on est en train de se poser la question, là, de se dire. À quel point c'est des choses qu'on doit écouter? Est-ce qu'il faut qu'on revoie la façon de faire complètement? Est-ce que finalement ce côté scénarisation avec une personne à côté de l'autre, sachant qu'on est ni l'une ni l'autre actrice, qu'on a déjà fait de théâtre, que c'est pas notre truc, quoi, est-ce que ça marche? Donc on sait pas. C'est vrai que le côté de demander toujours à la communauté ce qu'elle en pense, de temps en temps, c'est aussi accepter de se prendre une petite claque dans la figure.
Ouais, je comprends. Bon, en tout cas, en termes d'élocution et d'expression au micro d'un podcast, 10 sur 10. Mais à voir ce que vous décidez de faire. Mais je comprends très bien et c'est pas simple de naviguer entre tes intuitions, tes convictions sur ce qui vaut la peine d'être partagé, ce que tu as envie de transmettre, parfois même l'envie de te montrer et d'incarner versus des retours qui soit sont un signal faible, soit sont un élément isolé. Et c'est pas facile de faire la part des choses, en effet, je comprends. Ok. Et alors, je me demandais, tu m'as dit que du coup, Plancache était vraiment construit autour de valeurs féministes, de diversité, de bienveillance. Comment est-ce que vous faites pour exprimer ces valeurs et les matérialiser? Ça, c'est une question que je pose assez souvent parce que je la trouve assez complexe. Comment tu matérialises ces valeurs et ces convictions à travers les contenus que tu crées? En fait, comment tu passes de la valeur vraiment au concret, quoi?
Alors déjà, sur le féminisme, l'idée, c'est qu'en fait, il faut accepter de temps en temps de prendre des positions qui ne vont pas être acceptées par tout le monde. Mmh. Donc, par exemple... dans la répartition de l'argent du couple, on est pour le prorata, voilà.
Okay.
On va pas dire chaque couple décide sa façon de. On va dire pour nous, c'est celle-ci qui est la plus juste et on vous explique pourquoi. On va oser prendre des positions sur certaines choses qui peuvent paraître plus politiques.
Mm-hmm.
Par exemple, on a fait un petit édito en reel contre la réforme du chômage du gouvernement. On a fait un petit édito en reel pour une augmentation des salaires des personnes du travail du care,
ouais.
Du travail du soin,
ouais.
Qui sont très majoritairement des femmes, hein. Il ne faut pas se les cacher. Donc ça, c'est des positionnements politiques qu'on ose prendre et qu'on sait que peut-être certains annonceurs n'aimeront pas. Peut-être certains abonnés vont se désabonner à ce moment-là. Et effectivement, de temps en temps, on perd un petit pourcentage d'hommes. Alors, pas beaucoup, hein, puisqu'on a 9,2% d'hommes en abonnés, okay. Mais il y a quelques temps, on avait 9,4%, tu vois.
Okay.
Donc, ça veut dire qu'on les a fait fuir sur certains sujets
je comprends.
Qui touchaient peut-être plus au féminisme qu'à l'argent au sens strict. Comment on fait ça? Quand on fait des profils, que ce soit quand on utilise des images, que ce soit des images prétextes, c'est-à-dire des illustrations de banques de données ou des personnes qu'on fait témoigner. En fait, on va vraiment avoir à cœur de représenter l'ensemble des origines ethniques, l'ensemble des milieux sociaux, et on va vraiment aller chercher ça. Et ça, c'est un truc auquel je tenais beaucoup dans l'association Prenons la Lune que j'avais. Et tu vois, par exemple, ceci est une investisseuse, je te dis un truc tout bête, sur ce format-là, s'il y a deux personnes blanches, je ne fais pas de troisième format tant que je n'ai pas une personne racisée pour alterner.
Yes.
Je me suis mis cette contrainte qui est hyper compliquée parce qu'elle me rajoute, en plus de l'intérêt du portefeuille des personnes, de l'intérêt de leur profil, de tout ça, avoir vraiment cette alternance-là. Mais en fait, je pense que c'est très important, en fait, que si on ne fait pas l'effort, on on fait que reproduire les mêmes images que la presse traditionnelle nous donne déjà.
Je comprends. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment prendre des positions fortes et assumées. Et du coup, aller à l'encontre de tout ce qui est bien-pensance et populisme, finalement. Enfin, en tout cas, ne pas dire aux gens...
À bien-pensance,
non-conformisme, quoi.
Nous, on n'y va pas.
Mais,
non,
très bien.
On fait pas. mais l'autre valeur forte qu'on défend, c'est sur l'écologie.
Oui.
Alors, évidemment, on ne peut pas dire dans un système capitaliste, on est un média écolo sur l'investissement.
Compliqué.
Oui. On dit qu'on est un média qui a des questionnements écologiques sur l'investissement.
Okay.
Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'investissement, on pose la question de savoir est-ce que celui-là, il est bon ou pas pour l'écologie.
Ouais.
Et effectivement, dans les annonceurs, on privilégie ceux qui sont en avance. Il y en a qui pensent que la finance ne sert à rien dans l'écologie. Or, le rapport du GIEC dit que la finance a un rôle très important à jouer. Mmh. Puisqu'en fait, en finançant les entreprises d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on choisit le monde de demain.
C'est pas faux.
Et donc, que l'on finance des startups ou que l'on finance des actions de grandes entreprises en bourse, on finance soit des entreprises qui vont dans le sens d'une sobriété énergétique, soit même sur des grandes entreprises, des entreprises qui font l'effort de respecter le seuil des 2 degrés de l'accord de Paris, tu vois, par exemple.
Mm-hmm. Ouais.
Et donc, en fait, nous, on parle de tout ça. On fait tout un travail sur le greenwashing des labels pour expliquer bien lesquels les labels financiers sont réellement efficaces,
okay,
et lesquels sont un peu du pipeau. avec cette idée toujours qu'en fait, ça peut déplaire à des annonceurs, ça peut faire fuir des gens, mais en fait, tant pis, quoi.
Très bien. Mais du coup, c'est assumé, ça fait partie de votre ligne éditoriale et c'est ça qui vous permet d'avoir, bah, justement, de véhiculer ces valeurs. Et tu me disais que tu défends aussi des valeurs donc féministes et tu m'as parlé, quand on s'est rencontrés, de la notion de féminisme washing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion ? Parce que moi, je connais le greenwashing, le wokewashing à la rigueur, mais le féminisme washing, peut-être un peu moins. Comment ça se manifeste aujourd'hui dans les communications des marques, dans nos quotidiens ?
Alors oui, le féminisme washing, c'est une notion importante pour moi parce que j'ai écrit un bouquin de journalisme d'enquête au Seuil il y a 3 ans sur ce sujet qui s'appelle « Féminisme washing quand les entreprises s'approprient la cause des femmes ». Désolé, hein, je le suis.
Non, vas-y.
Et en fait, l'idée, c'était de raconter qu'il y avait eu un bouleversement dans les 10-12 dernières années.
Ouais.
Le féminisme qui était hyper stigmatisé est devenu, en gros, à la mode. Aujourd'hui, 58% des Français se disent féministes. Donc, les marques, les entreprises, qui savent très bien aujourd'hui qu'il faut communiquer non plus uniquement sur les produits, mais sur des valeurs, ont envie de s'approprier ça pour attirer une clientèle de femmes et une clientèle de jeunes, notamment. Et évidemment, aussi une clientèle LGBTQIA+, non-binaire, etc. Sauf que le problème, c'est que la plupart du temps, quand les marques choisissent de communiquer là-dessus, et notamment autour de la date fatidique du 8 mars, en fait, elles communiquent dans le vent sur des choses superficielles, sur des convictions et des grandes phrases qui ne sont pas suivies d'effets.
Oui.
Et moi, dans Féminisme Washing, je suis allée étudier le cas de plusieurs marques et de montrer comment elles ne respectaient pas leurs valeurs derrière la communication. Comment, par exemple, pour moi c'est rédhibitoire, quand il y a des situations de harcèlement sexiste ou sexuel ou d'agression sexuelle dans des entreprises qui deviennent systémiques, dans des entreprises qui se disent féministes, bah, en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, il faut que les ressources humaines, il faut que la façon dont le produit est fabriqué soit en lien avec les valeurs qui sont mises en avant dans l'entreprise ou dans la publicité.
Ouais. Oui, en effet. Plutôt que d'avoir une espèce de papier lissé, joli, avec des messages un peu sympas, mais qui est, que tout soit creux derrière et qu'il n'y ait vraiment aucune mise en place d'action ou d'engagement ou de vrai parti pris, quoi.
Oui, voilà. Est-ce que tu veux que je cite un exemple de féminisme washing ?
N'hésite pas. Allez, on balance ce matin.
Non, mais il n'y a pas de problème. Je l'ai dit dans plein d'interviews et de toute façon, tout ce que je fais est fact-checké. Donc,
vas-y.
Non, mais tu vois, par exemple, le 8 mars en 2018, McDo, dans certains McDo aux États-Unis, avait renversé le M de McDo pour en faire un W de Women. Il avait fait un communiqué de presse pro-égalité femmes-hommes.
OK.
Et en fait, McDo, c'est une des entreprises qui est le plus poursuivie dans le monde. Il y a eu genre 25 plaintes pour harcèlement sexuel et sexiste aux États-Unis, une enquête approfondie de l'OCDE pour sexisme et harcèlement systémique. L'année où moi j'ai écrit mon bouquin, il y avait une enquête de moi sur les inégalités salariales et une enquête de Mediapart, plus des manifestations de McDo CGT. Enfin bref, pour montrer que c'était une entreprise qui respectait pas du tout l'égalité homme-femme. Et au lieu de s'emparer du sujet et d'essayer d'améliorer les choses quand les affaires sont sorties, McDonald's a dit « c'est pas notre faute, c'est la faute des franchises ». Tu sais, les restaurants McDo sont franchisés, donc en fait, c'est pas à nous de gérer, c'est aux franchises.
Nul.
Bon, ben là, on est dans une machine pure, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a un élément de communication, aucune volonté de changer et d'améliorer.
Voilà. Et on va plutôt les pointer du doigt à l'extérieur, quoi. En plus.
Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on voulait pas faire. Mm. Donc, par exemple, pour nos annonceurs, on choisit des annonceurs qui ont déjà des femmes dans leur clientèle.
D'accord.
Déjà fait même un petit bout de démarche pour essayer d'attirer plus les femmes. Et on, voilà, on passe un pacte avec eux en leur disant que ces choses-là, de toute façon, c'est non négociable, en fait.
Bah, c'est trop bien et ça donne des pistes de réflexion et ça m'ouvre à la dernière question que j'avais pour toi. Aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est un peu tendue, pour dire les choses de manière soft. Et j'entends par là qu'il y a beaucoup de marques qui sont accusées de greenwashing ou de washing en tout genre. Et du coup, on peut avoir tendance à se dire que même les initiatives qui sont menées dans une démarche ou une envie vraiment honnête et sincère, parfois les entreprises vont avoir peut-être un petit peu peur de communiquer dessus ou de même de se lancer dedans par peur justement de se prendre un bad buzz, de se faire troller, de se faire accuser de washing en tout genre. Qu'est-ce que tu conseillerais aux entreprises ou aux entrepreneurs ou aux créateurs qui ont peut-être envie d'avoir des discours un peu plus engagés, un peu plus tranchés sur des sujets divers et variés, mais sans pour autant s'exposer au risque de se faire accuser de greenwashing, de féminisme washing. Je sais que tu vas me dire ne pas en faire, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses à garder en tête ?
En fait, il y a des choses très concrètes. Par exemple, sur une publicité où la marque essayerait de faire quelque chose de féministe ou d'inclusif, de LGBTQIA+, d'écologique, etc., ben, tu peux par exemple proposer de faire tester ta publicité à un groupe de militants ou de militantes.
Ouais, cool. Ouais,
Est-ce que ça va leur plaire ? Est-ce que ça va les gêner aux entournures ? Est-ce qu'ils vont voir une forme d'opportunisme ou pas ?
Ouais.
Moi, je donne un cours à Sup de Pub sur l'engagement des marques vis-à-vis du féminisme et le washing. Bah, je leur dis ça, c'est une piste. L'autre piste, c'est de se dire, OK, bon, bah, maintenant que j'ai cette publicité et ce message fort ou cette annonce sur les réseaux sociaux forts, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action concrète dans mon entreprise pour aider les femmes ?
Mmh.
Alors, il y a plein de choses. Ça peut être des choses hyper... pragmatique, ça peut être donc vérifier les inégalités salariales où elles en sont, promouvoir plus de femmes ou en tout cas vérifier dans le pool de talents que l'on reçoit toujours des femmes pour laisser toujours des chances à des femmes quand des nouveaux postes s'ouvrent. Ça peut être créer des crèches d'entreprise, ça peut être proposer des congés paternité plus importants parce qu'on sait que c'est un facteur d'égalité dans le couple quand le jeune papa s'occupe des enfants très tôt.
Yes.
Ça peut être plein de démarches comme ça, de petites démarches qui améliorent concrètement la vie des femmes. Et puis l'autre chose qui peut être faite en parallèle, c'est un don à une association qui est en lien. Mm. C'est-à-dire que si la marque, elle veut vraiment montrer un engagement, bah pourquoi est-ce qu'elle ne doublerait pas ses publicités d'un don de quelques dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros selon la force économique de l'entreprise, auprès d'une asso ou d'une ONG qui défend cette cause.
Oui, c'est vrai qu'on retrouve ça, ces leviers-là, dans certaines entreprises. Enfin, je pense notamment à... je sais qu'aux États-Unis, il y a Warby Parker, le lunetier. Je crois que Jimmy Fairly le fait aussi en France. Et si tu achètes une paire de lunettes, il y en a une qui sera offerte à une personne dans le besoin. Et je suis complètement d'accord avec toi. En fait, finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que toute prise de parole et tout engagement oral devrait idéalement être doublé d'une action engagée derrière qui reflète ton discours, quoi.
Et moi, souvent, il y a un cas que je cite, qui est le cas L'Oréal, qui dans mon livre, j'en ai parlé parce qu'en fait, il y a beaucoup de contradictions. Chez L'Oréal, bon, à la fois, on vend du cosmétique, donc quand même, on prône une vision de la beauté,
certes,
qui est particulière, qui correspond à un certain nombre de beauté, mais en même temps, il y a un engagement très sincère sur les actions concrètes dont je t'ai parlé et sur les ONG, puisque la Fondation L'Oréal est une des trois ONG qui donne le plus de fonds à l'égalité homme-femme en France, et Dieu sait que c'est sous-financé à fond, à l'égalité homme-femme. Et donc, pour le coup, moi, L'Oréal tombe pas dans du féminisme washing. Oui. Elle tombe dans les travers d'une entreprise, d'une grande entreprise capitaliste imparfaite. Mais en tout cas, c'est pas du washing.
Ok, très intéressant. Donc du coup, tu peux être gros et imparfait, mais quand même avoir à cœur et faire en sorte de faire les choses bien sous certains aspects.
J'y crois. Okay. Peut-être que j'y crois trop facilement, mais en tout cas, moi, j'y crois.
Non, mais c'est une belle conclusion et une note d'optimisme dans ce monde de brut et de washing. Je suis d'accord avec toi, je le partage aussi. Et je pense que je vais aller même un peu plus loin et après, je vais te laisser retourner. Va qu'il y a des occupations. Et je pense même que parfois, d'une initiative qui n'est pas forcément hyper engagée ou qui n'a pas l'intérêt des consommateurs à cœur en priorité, bah, parfois, l'impact de la communauté et l'impact des réactions de cette action peut amener la boîte à devenir un peu plus vertueuse. Donc parfois, contre sa volonté, mais sans qu'elle ait vraiment prévu, je pense que les dynamiques communautaires permettent d'amener les boîtes vers un comportement un peu plus juste, égalitaire, engagé.
Ça, c'est très important, je trouve, ce que tu dis, comment la boîte réagit par rapport à la communauté. Souvent, dans la communication de crise, tu as deux manières de réagir un peu stéréotypées. Tu as la boîte qui nie, qui dit non, on n'a rien fait, c'est pas vrai. Et tu as la boîte qui va être interpellée sur les réseaux sociaux, etc. et va se dire, OK, comment on fait pour réagir intelligemment, pour changer les process sur le long terme, pour donner une vraie réponse et pour prendre en compte la communauté. Oui. Et moi, je crois qu'on a tous le droit à l'erreur, et même les entreprises, hélas. mais que par contre, ce qu'il faut, c'est bouger.
Oui.
À partir du moment où il y a des critiques qui sont méritées, il faut bouger.
Oui. Faire en sorte de se faire tirer par le haut par son audience et sa communauté. C'est la thèse de mon livre que je suis en train de finaliser. J'en dirai plus dans les épisodes prochains, dans quelques épisodes. Mais en tout cas, je te remercie Léa pour ce témoignage. C'était vraiment passionnant. Merci pour tes conseils. Ça donne envie. Je pense que je vais aller suivre la formation plan cash de ce pas, vu que je suis vraiment nulle avec l'argent. Et j'ai réalisé ça en t'écoutant parler. Excellent pitch.
Ah non.
Non, on est beaucoup. En tout cas, je te remercie pour tes conseils. C'était vraiment un chouette moment et je te souhaite une très belle journée.
Très belle journée à toi aussi, Noémie. Merci.
Salut.
Au revoir.
Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? J'ai adoré les conseils de Léa et je retiens en particulier l'importance, pour garantir la croissance d'un compte sur Insta, de mettre le paquet sur le lien avec son audience, notamment en répondant aux messages et en incarnant la marque comme le fait Léa, mais aussi en nouant des partenariats avec d'autres créateurs et d'autres marques qui s'adressent à des audiences similaires à la sienne en faisant du cross-posting. L'union fait la force, comme on dit, et Plan Cash est un excellent exemple de la réalité de cette expression. Je vous laisse réfléchir à ça et je vous dis à très vite dans The Storyline.